Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel. L'alchimie est une voie parallèle dans ma vie. Elles sont plusieurs. Serais-je un jeu multiple, à chaque jeu une voie ? Il y a la poésie, la peinture et la psychanalyse. Je dis bien des voies parallèles, c'est-à-dire qui ne se croisent jamais. Enfin, dans une géométrie euclidienne. Notons que sur une sphère, les parallèles finissent par se rencontrer par un point, le point de non-retour. André Breton, dès le début du second manifeste, exprime cette rencontre lorsqu'il désigne le point suprême où le réel et l'imaginaire cessent d'être perçus contradictoirement. Cependant, dire que l'alchimie, la poésie, la psychanalyse, la peinture sont des voies parallèles exige d'en déduire certaines conséquences. C'est comme si entre toutes ces activités, il y avait des points communs ou des sections communes, mais non confondues. L'alchimie, dans ce qu'elle a de plus profond, est d'abord transformation de la matière et à travers cette transformation, le changement de l'individu vers plus de pureté pour atteindre à la munificence de l'or.
Près de l'au-delà, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, se trouve ma mécène que j'aime autant que les arbres, le vent qui battent le temps d'une mesure, et au fur et à mesure que les champs avancent, la faune et la flore et les métaphores entrent en transcendance.
À 14 ans, je découvris l'alchimie grâce à un feuilleton, Les Compagnons d'Éleusis. On y voyait le héros, joué par Bernard Allan, journaliste, enquêté dans le quartier de la Tour Saint-Jacques. Voici le générique mystérieux à souhait, composé par Georges Delru. Comme écrivain public, avant l'imprimerie, on copiait les livres à la main. Flamel, sans vraiment s'intéresser à la question, eut à copier dans sa petite boutique des manuscrits alchimiques. Jusqu'au soir, où un rêve vint le visiter dans son profond sommeil. Un ange lui apparut qui lui présenta un livre antique. Flamel, lui dit l'ange, regarde ce livre, tu n'y comprendras rien. Ni toi, ni bien d'autres, mais tu y verras un jour ce que nul n'y saurait voir. Flamel tendit la main vers le volume, mais celui-ci se dissipa en même temps que l'ange dans une nuée d'or. Flamel avait oublié ce rêve lorsqu'un événement remarquable se produisit peu après. Un jour de l'année 1357, il acheta à un inconnu un vieil ouvrage qu'il reconnut de suite. C'était le livre qu'il avait vu en songe. Flamel lui-même nous raconte la suite. Il me tomba entre les mains pour la somme de 2 florins, un livre doré fort vieux et fort grand. Il n'était point en papier ou en parchemin comme sont les autres, mais seulement il était fait de déliés et écorces de tendres arbrisseaux. C'était le livre qui allait lui ouvrir la route difficile, semée d'embûches, à la recherche de la pierre philosophale. Cela me rappelle un rêve que j'ai fait il y a environ 3 ans. C'est la nuit, une porte marron affublée d'un code. J'en suis sûr, cette porte ouvre sur un escalier qui mène au laboratoire de Nicolas Flamel. Mais je ne connais pas le code. Un peu plus tard, je passe toujours dans la même rue, au seuil du crépuscule, et ce coup-ci, la porte est entrouverte. Je pourrais la pousser, m'y faufiler, descendre l'escalier, mais j'ai peur. Je ne fais rien, je me réveille. L'alchimie du verbe d'Arthur Rimbaud. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeux, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. Je rêvais croisades, voyages de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles. A, noir. E, blanc. I, rouge. O, bleu. U, vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique, accessible un jour ou l'autre, à tous les sens, je réservais la traduction. Cette idée d'un texte crypté au fond dont Rimbaud se réserve l'usage rejoint la manière qu'ont les alchimistes de traiter la langue, appelée langue des oiseaux, parce qu'on préfère y faire entendre le doux gazouillis plutôt que de s'arrêter à la simple signification. Le processus alchimique se divise en trois œuvres, et le poème « La physique enchantée » reprend pour son compte celui de la poésie, les trois étapes successives. La physique enchantée. Tout cabinet de curiosité doit être équipé du matériel nécessaire à l'expérimentation enchantée. On la dit belle car elle est un croisement curieux de magie blanche et de science dite éclairée. Au monastère de Brno, Mendel cultivait ses petits pois en relisant saint Thomas. La première expérience est la transformation de la glace en nuage ayant la dureté d'un acier trempé. La deuxième fait rebondir tout objet sur la surface grêlée d'un plafond. Le plafond est bleu, parcouru de flots bouillonnants, comme à l'ouverture d'une écluse. La troisième s'attache à rendre possible la condensation de petits fragments vivifiés de temps conservés sous cloche. L'exercice est si rare, si périlleux, que plusieurs traités s'y sont cassés les dents. Le moins abouti sera, à l'occasion, plus proche d'une vérité en mouvement. Un des ouvrages les plus célèbres de la littérature alchimique trône dans ma bibliothèque. Il s'agit du Mutus Liber, ou Livre muet. Le sous-titre est « Livre d'images sans parole ». Sans parole, ce sont de grandes planches qui illustrent de manière cryptée les différentes étapes de l'œuvre alchimique dans sa version humide, plus longue mais moins dangereuse. Comment ne pas penser aux cathédrales, qui furent aussi des livres d'images, à l'époque où la plupart des gens ne savaient pas lire, mais lisaient de manière féconde les textes de pierre au fronton des grands édifices. Fulcanelli, au début du mystère des cathédrales, confie son émerveillement à 7 ans lorsqu'il vit pour la première fois une cathédrale gothique. Je cite « En quel langage, par quels moyens pourrions-nous leur exprimer notre admiration, leur témoigner notre reconnaissance, tous les sentiments de gratitude dont notre cœur est plein pour tout ce qu'ils nous ont appris à goûter, à reconnaître, à découvrir même ces chefs-d'œuvre muets, ces maîtres sans parole et sans voix. Sans parole et sans voix, que disons-nous? Si ces livres lapidaires ont leurs lettres sculptées, phrases en bas-relief et pensées en ogive, comment ne pas penser à Proust, je fais une petite parenthèse, qui comparait son grand œuvre pour en montrer l'architecture cachée à une cathédrale, la recherche de la pierre de touche, la pierre sur laquelle le monde en entier reposera. Il n'en parle pas moins, continue Fulcanelli, par l'esprit impérissable qui s'exhale de leurs pages, plus clair que leurs frères cadets, manuscrits et imprimés. Ils possèdent sur eux l'avantage de ne traduire qu'un sens unique, absolu, d'expression simple, d'interprétation naïve et pittoresque, un sens purgé des finesses, des allusions, des équivoques. Ici, dans ce texte, s'exprime la croyance en est une, en une langue sans équivoque, autrement dit, le point nodal de l'impossible. Car, par essence, notre inscription en tant qu'humain dans les méandres du langage est la possibilité offerte, mais est-ce un cadeau de tous les malentendus et la marque de ce qui peut être folie chez l'homme? Passons, cela nous mènerait assez loin. Regardons ensemble la merveilleuse première image de ce livre muet. Elle fait voyager au bord de l'océan, soulignant la voie humide, plus longue mais aussi plus proche d'un acte d'amour à la matière première. L'adepte est endormi contre un rocher. La voilà la valeur du rêve. Et sur l'échelle de Jacob, qui monte jusqu'au ciel étoilé, où la lune se cache encadrée par des nuages, deux anges soufflent dans leur buccin un son d'abeille d'or afin de réveiller le vieil homme à l'entrée imminente, au réveil du processus propédeutique au vrai travail de l'esprit. La scène est encadrée par une grande couronne de rosiers où fleurissent les fleurs tant aimées des alchimistes parce que, blanches ou rouges, elles évoquent les deux dernières étapes du processus. Le rêve, donc, la force de l'imaginaire, voilà ce qui nourrit notre poésie qui est elle-même l'athanor caché interne où le plomb des souvenirs se transmue en or, enfin l'espère-t-on à chaque tentative de transmuer la voix cassée et frêle de notre vie quotidienne en la belle voix bien timbrée et mordorée et ressuscitée de la littérature. Voilà ce que fait la poésie. Elle prend le vil plomb de l'existence et le transforme en or, c'est-à-dire à partir du noir, du grisé, du mort, faire luire une lumière intérieure. Bien faire comprendre ce que l'écriture a d'alchimique, voilà deux extraits tirés de la chambre noire illustrant notre propos. J'y parle du restaurant que tenaient mes grands-parents à Bordeaux, cours de l'Isère, où à partir d'une simple orange sont évoqués les bateaux venus d'Afrique dont les ouvriers du port formaient l'essentiel de leur clientèle et qui, par la magie de la syntaxe et un effet de transsubstantation, finissent eux-mêmes par être enveloppés, à l'instar de ces précieux fruits, délicatement dans un papier de soie. Avant la classe éclairée, je regardais une dernière fois les beautés à l'étalage de l'épicerie. Pyramides, damiers, oranges, venus d'Algérie dans la cale des cargos, jusqu'à Bordeaux, sur les quais dominés par les colonnes rostrales, non loin du restaurant du cours de l'Isère, tenu par mes grands-parents, où les ouvriers du port mangeaient pour pas cher, rangés, empaquetés, comme chez Alphonse Daudet, dans un papier de soie. Ou le récit, après l'école, de la descente vers Montbazon, où se mêlent dans une fugue à trois voix l'évocation d'un feu dans le lointain, une photographie des bûcherons de la forêt noire illustrant un essai sur Heidegger, et en arrière-plan, les ancêtres charbonniers, presque des alchimistes, faisant brûler le bois d'être pour ne garder que la partie ligneuse et légère, comme une métaphore à peine voilée du travail de l'écriture, foncièrement ancrée dans la nuit, le charbon des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Sans oublier soudain, changement de décor à vue, le même narrateur dans un train, balayant du regard le paysage illuminé par un autre feu de bois. Ensuite, nous longions le chemin forestier avec le contentement des bûcherons de la forêt noire, hache sur l'épaule, descendant vers la vallée. Le bruit des pas retentissait, un froissement d'étoffe, l'odeur du bois mouillé, le fagot de bois vert fumant en contrebas, faisait monter les volutes de fumée fine, un instant éclatant, telle une trompette en ré, surgissait où mes ancêtres, vivant près des foyers composés des meules en bois d'hêtre, tirant du bois après plusieurs jours, la partie ligneuse et légère du bois à la fin du long et alchimique processus de combustion, nourrissant mon écriture, si immatérielle que la fumée s'échappant du buisson pouvait passer à travers les vitres d'un train, parcourant la campagne à vive allure. Les bouleaux, les peupliers, les chênes, les hêtres, déroulés à la manière d'un rouleau des toiles d'arrière-fond, les taches sur les troncs, les lichens jaunes vifs, les mousses vertes traitées en aplats et vuillards, donnant à notre descente l'énergie des bûcherons à la recherche du bon arbre, tandis qu'une lumière vive, celle qui transperçait il y a peu les rideaux de la classe, venait jouer avec le globe, se frayer un passage secret entre les feuilles attachées, imprimant l'air d'une aura pleine de verdeur et d'éclairs. Dans « À bâton rompu », la tradition est toujours de contrebalancer la réflexion et la rêverie par un reportage qui nous ramène au réel le plus prosaïque. Tiré des riches archives de l'INA, qui en passant devraient être libres d'accès mais ne sont accessibles que contre monnaie sonore et trébuchante, ce qui est un comble pour un institut national, voilà Monsieur Parménide, c'est son nom, enfin sûrement un pseudonyme, alchimiste du dimanche, comme les peintres du même nom, petit monsieur, à la petite moustache, coiffé d'un béret, répondant aux questions dans son laboratoire, digne d'une gravure ancienne. Ne disant pas qu'il fabrique la pierre, plus modeste, nous nous reconnaissons dans ce bricolage, autour des éléments, dans cette passion dilettante.
Monsieur Parménide, vous êtes alchimiste. En quoi cela consiste-t-il en 1960 ?
À reprendre les idées des anciens, qui sont en réalité les créateurs de la chimie moderne et qui avaient des idées tout à fait remarquablement intelligentes, puisque à l'heure actuelle, la radioactivité a montré que des éléments pouvaient se transmuter les uns dans les autres.
Et pouvez-vous nous dire rapidement ce qu'étaient ces idées des anciens ?
Que la matière était unique et par conséquent, il y avait certainement un procédé pour faire passer ce qui ne plaît pas encore des atomes d'une orbite sur une autre pour changer la nature du corps.
Et comment êtes-vous devenu vous-même alchimiste ?
Quand j'ai fait mes études de chimie à la Sorbonne et à la Monnaie, à ce moment-là, je me suis aperçu qu'il y avait certainement une lacune. Le hasard m'a fait tomber entre les mains des livres d'alchimie anciens qui sont les seuls intéressants parce que c'est dans ceux-là qu'on trouve la véritable doctrine.
Car vous-même, Monsieur Parménide, vous avez une formation scientifique universitaire.
J'ai des licences de faculté des sciences et le diplôme d'essayeur de la monnaie de Paris.
Et vous considérez que cette formation est nécessaire pour devenir
absolument
alchimiste ?
Absolument indispensable, parce que j'ai connu beaucoup d'alchimistes sans culture et qui, à mon avis, d'après les travaux que j'ai vu faire par eux, faute de connaître la chimie qui y est d'ailleurs, sont passés à côté de choses sensationnelles. En ce moment, je pense notamment à un garçon qui était vendeur dans une librairie spécialisée dans ce genre d'ouvrage, qui les avait lus avec passion et qui s'était monté à un laboratoire où il a failli s'asphyxier un jour, comme Jenny l'ouvrière, parce qu'il avait refermé, sans prendre la moindre précaution, le charbon de bois et le reste, et en rentrant, il devait tomber raide mort. Et il est passé à côté, certainement, de la pierre au blanc, d'après les renseignements qu'il m'avait donnés. La pierre au blanc, c'est le procédé de fabrication de l'argent.
Et pour vous, cette rencontre avec l'alchimie fut-elle un effet du hasard ou avez-vous été conduit par un maître ?
C'est-à-dire que j'ai eu des conversations avec des chimistes expérimentés que je considérais comme beaucoup plus forts que moi concernant ces lectures qui m'avaient paru très troublantes. Et comme j'ai vu qu'ils étaient eux-mêmes très troublés, qu'ils s'en occupaient, à ce moment-là, j'ai décidé de travailler moi-même. Je n'ai pas eu malheureusement un initiateur, sans ça, je serais certainement beaucoup plus loin.
Mais en alchimie, la tradition orale n'est-elle pas plus importante que la tradition écrite ?
Uniquement.
C'est surtout la tradition orale.
Uniquement, parce que tous les écrits, comme je vous en montrerai tout à l'heure, c'est toujours sous une forme dissimulée. Et les alchimistes compétents ont la bonne habitude de vous dire que quand on vous donne un livre clair, c'est le plus obscur et le plus faux qui puisse exister.
Monsieur Parménide, vous êtes, comme tous les anciens alchimistes, à la recherche du grand œuvre, c'est-à-dire de la pierre philosophale.
Indirectement, c'est-à-dire que j'estime qu'avant, il y a des échelons à gravir et que leur mise au point aboutira à un excellent résultat. Mais partir d'autorité à la recherche de la synthèse de l'or me paraît un peu prématuré pour mes faibles moyens.
Oui, car la découverte de la pierre philosophale a un autre sens que matériel.
Oh oui, elle a un sens très très général, philosophique et au point de vue santé également, elle pourrait rendre des services inappréciables.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les travaux auxquels vous vous livrez dans ce modeste laboratoire ?
Ce sont surtout des fusions, vous voyez, j'ai des fours de tous les calibres, des fours électriques, le vieil éthanor de nos pères, à charbon, n'est-ce pas, pour lequel il s'agit de savoir régler le feu, qui est une grande science.
Et vous travaillez à quel moment, continuellement ?
Le dimanche après-midi, quand j'ai des loisirs, le dimanche après-midi uniquement.
Et êtes-vous déjà arrivé à certaines découvertes ?
Des découvertes, on ne peut pas dire, il n'y a pas de découverte en alchimie, n'est-ce pas ? J'ai simplement remarqué des choses extrêmement curieuses à propos de cette histoire dont je vous parlais, du soufre d'argent et du mercure d'antimoine, et je pensais que peut-être la conjonction des deux arriverait à l'excellent résultat.
Et quelle conclusion ou quelle philosophie avez-vous tiré de ces années de recherche ?
Que pour moi, l'alchimie ne fait absolument aucun doute et que tous les gens qui en ont écrit sérieusement étaient des gens de bonne foi. Alors nous allons conclure comme le vieux Paracelse, si vous voulez. Ce qui fume, c'est le mercure, ce qui brûle, c'est le soufre, et ce qui reste, c'est le sel.
Les quatre cornues. La première doit être remplie d'un mercure ailé, nommé ainsi car il vole et laisse au-dessus des vaisseaux l'odeur un peu explosive d'un poivre, d'un pain d'épices. La deuxième se casse, chauffé à blanc, reprend la consistance, le doré d'une plage en plein midi. Des enfants jouent au ballon, décorés de bandes noires, blanches et rouges. À chaque fuseau parcouru, le verre devient poreux. L'on entend le bruit des vagues, respiration d'un poisson, des cris de joie. La troisième a la forme d'un pélican, plongé avec délice les doigts à travers l'eau lustrée du bassin. Torsion des draps rosés. La dernière fait pleuvoir la lumière en rosace, 12 effets de germination. L'ondine se cache sur les berges, elle ouvre les filets, laisse partir les nappes au gré du courant. Le peintre, comme l'alchimiste, cherche la lumière. Pour cela, c'est le signe d'une vision, il reformule l'univers autour de nous à travers un miroir. noce entre le macrocosme, l'univers entier qui nous entoure, et le microcosme, le tableau, qu'un peintre, Van Eyck, redouble en posant dans les époux Arnolfini, au bon endroit, sur le mur du fond, un miroir dans lequel on peut voir le peintre lui-même devant l'entrée de la maison, hors cadre. Au Moyen-Âge, les miroitiers et les peintres appartenaient à la même et unique corporation. Et maintenant, la psychanalyse et l'alchimie. Notons, pour notre part, qu'elle est une manière, l'alchimie, élégante et poétique, d'imager une série de transformations internes que promeut une analyse menée à son terme et qui correspond à la mort du vieil homme. Les trois œuvres du processus alchimique peuvent servir de métaphore à une cure menée avec succès. L'œuvre au noir correspond au dévoilement du masque. D'actualité, n'est-ce pas ? Le masque se disant persona en latin. Déboulonner le jeu trompeur et faire advenir, malgré l'angoisse qui en est la rançon, le sujet de l'inconscient. C'est la traversée des enfers avec l'analyste comme guide. Puis la blancheur, une recomposition de ce qui a été délié, un renouage avec les trois fils imaginaires, symboliques, réels, produisant non une guérison, mais un symptôme autour d'un trou. Enfin, l'œuvre du rebis, l'œuvre au rouge, le retour du désir renseigné de ses limites, de son aliénation, le fleurissement après l'hiver des petites fleurs bleues qui viennent éclairer les rêves du héros dans le grand roman de Novalis. Pour finir, je ne résiste pas à vous lire un des textes écrits par Nicolas Flamel, le sommaire philosophique en vers, si poétique par son babil plein d'images et de miroitements. Le sommaire philosophique de Nicolas Flamel. Qui veut avoir la connaissance des métaux et vraie science, comment il est faux transmuer et de l'un à l'autre muer, premier il convient qu'il connaisse le chemin et entière adresse de quoi se doivent en leur minière terrestre formée et manière. Ainsi ne faut-il point qu'on erre, regardez, est-ce veine de terre toutes les transmutations dont sont formées en nations, par quoi transmuer ils ne peuvent, dehors les minières où se trouvent, étant premiers en leurs esprits, à savoir, pour n'être repris en leur souffre et leur vif argent, que nature a fait par argent, car tous métaux de soufre sont formés et vif argent qu'ils ont. Ce sont deux spermes des métaux, quels qu'ils soient, tant froid que chaud, l'un est mâle, l'autre femelle, et leur complexion est telle. Mais les deux spermes désudits sont composés, c'est sans redit, des quatre éléments, sûrement cela j'affirme vraiment. C'est à savoir le premier sperme masculin, pour savoir le terme, qu'en philosophie on appelle soufre, par une façon telle n'est autre chose que élément de l'air et du feu seulement. Et le soufre fixe, semblable, au feu sans être variable, et de nature métallique, non pas soufre vulgal et inique, car le soufre vulgal n'a nulle substance qui, bien le calcule, métallique à dire le vrai, ainsi je le prouverai. Mais le temps est venu de fermer la porte de notre laboratoire secret, car s'il y a alchimie, c'est un processus interne, singulier, dont il faut garder l'impossibilité de dire le secret, car ce dernier, chacun se le crée, c'est notre invention, et là, il est temps de souffler la chandelle. Bien, je remercie une fois de plus Simon à la technique et pour sa collaboration. Et je vous retrouve le mois prochain pour une émission sur les sosies.